Les orages maléfiques, chapitre 21. Il quitta Lombok sans regret. Rien ne correspondait plus aux images gravées dans son cœur. Les marchands du temple s'étaient emparés des côtes les plus sauvages pour y dresser des usines à dollars. La mondialisation s'incrustait aussi dans les endroits les plus improbables de la planète. Il passa une nuit à Jakarta et s'envola le lendemain en direction de Sumatra. Il voulait se rendre dans un endroit qu'il espérait encore protéger de l'appétit des promoteurs, l'île de Nias. 15 années s'étaient écoulées, qu'allait-il retrouver sur ce confetti planétaire? Il s'enquit du prochain vol. Il restait des sièges disponibles pour un départ dans moins d'une heure. Il disposait juste du temps nécessaire aux formalités d'embarquement. Le coucou, d'une capacité de 20 places, correspondait comme un frère à celui qui transporta ses amis lors du précédent voyage au siècle passé. Ils avaient vécu des péripéties dignes d'un film de Charlot. Cela commença par le comptage et le recomptage des voyageurs. Le préposé, chargé de cette besogne, n'arrivant jamais au même décompte. L'avion décolla avec 30 minutes de retard. Le confort était précaire dans cet appareil à l'âge canonique. La cabine de pilotage ne bénéficiait d'aucune isolation avec le reste de la carlingue. Tout le monde pouvait voir le personnel navigant et les paysages alentour, sauf que la pluie s'invita dans la cabine. Le copilote essuyait l'eau qui pénétrait par les fissures du cockpit. Certains, sur les fauteuils, n'étaient pas fiers. La peur leur nouait le ventre, et leur visage prenait des couleurs en adéquation avec la grisaille du ciel. Une demi-heure plus tard, ils furent délivrés de leurs angoisses. Après quelques soubresauts chaotiques sur la piste défoncée, le commandant de vol annonça la fin du supplice. L'aéroport de Gunung Sitoli ressemblait plus à un hangar qu'à une aérogare. Le groupe, attendu par un guide local, s'engouffra dans un fourgon en direction des bungalows réservés en bord de mer. Le site paradisiaque leur offrit un coucher de soleil digne d'une carte postale. L'horizon orangé se reflétait sur l'océan. Ici commençait le paradis des surfeurs à la recherche de la vague mythique. Les jeunes gens téméraires s'épuisaient dans ces eaux. À portée de vue, des compagnes scrutaient anxieusement les flots sur les terrasses des résidences disposées quelques encablures plus haut. Les logements rudimentaires et inconfortables les surprirent. La literie n'avait pas été lavée depuis des lustres. Des taches aux couleurs incertaines décoraient des draps usés et troués. Chaque couple occupa un bungalow, chacun distant d'une 20aine de mètres de son voisin. Hormis la beauté de la nature, nos amis n'apprécièrent guère l'aspect hôtelier du séjour. La salle de bain corrobora leur ressentiment. Un bac en béton en sous-sol avec un robinet et un tuyau d'arrosage, voilà ce qui les attendait. Point de mitigeur, de l'eau de mer tout simplement. Il fallait en avoir envie pour se déchausser et se savonner dans cet espace insalubre. Les deux autres bungalows, beaucoup plus près de la plage, n'avaient pas été touchés par ce phénomène. Il fallut leur remonter le moral. Les copains refusèrent tout net la douche qu'ils leur proposèrent d'utiliser. Ils ne se lavèrent pas ce jour-là. Inutile de rajouter qu'ils furent les cibles favorites des railleries. La visite de l'intérieur de l'île était au programme. Ils se rendirent dans un village situé sur un plateau. Deux détails frappèrent les regards. Les toits des maisons, alignés en ligne droite de chaque côté d'une longue esplanade, étaient érigés à des hauteurs différentes. Les installations électriques défiguraient le site. Il aurait été plus judicieux de les placer à l'arrière des bâtisses. Un verra noir voulait compter fleurette à une truie, mère de famille et peu disposée à succomber à ses avances. Elle hurla et tenta de le mordre à plusieurs reprises, avant qu'il ne renonce face à l'adversité. des enfants en haillons jouaient à l'ombre au pied des habitations sur pilotis. Ici, hormis l'électricité, la vie se déroulait immuable depuis des décennies. Le guide expliqua que la hauteur des toitures déterminait la richesse de son propriétaire. Il se mit à rêver à la Tour Eiffel et à l'Empire State Building. Un autre élément les intrigua. Il s'agissait d'un bloc de pierre dressé au milieu de la place. Cet assemblage, d'une hauteur supérieure à celle d'un homme, revêtait une signification initiatique pour la jeunesse du village. Celui qui franchissait cet obstacle d'un saut magistral rejoignait le camp des adultes. À l'origine, les garçons s'entraînaient pour pouvoir franchir les palissades érigées de lances de leurs adversaires. De nos jours, le folklore avait heureusement pris le dessus sur l'usage guerrier. Les demeures traditionnelles étaient construites à l'identique. Des troncs d'arbres disposés en diagonale et d'autres plus droits constituaient un enchevêtrement où se réfugiaient les poules, canards et cochons. Ces pilotis protégeaient les logis de l'invasion d'animaux indésirables. Une pièce unique servait de cuisine et de salle de réception, tandis que la chambre se situait à l'étage supérieur. Lorsque l'appareil s'immobilisa, il vit l'aérogare. Il descendit la passerelle, huma les odeurs. Ce contact olfactif réveilla sa mémoire. Chaque lieu possédait des caractéristiques propres. Des effluves de poissons séchés lui chatouillèrent les narines. Rien n'avait changé. Dans le taxi qui l'emmenait en ville, il put constater la circulation intense des motos chargées de toutes sortes de passagers. La cité grouillait d'activité, chacun s'affairant pour essayer de gagner sa vie. Un cyclopousse focalisa son regard. 7 fillettes en costume d'écolière bleu et blanc occupaient le siège. Un vieil homme poussait son équipage dans une montée accédant à un pont. Elles riaient. Il pouvait voir leur sourire éclatant. Il avait vu les mêmes 15 années auparavant. Il les suivit longuement jusqu'à ce que ses paupières se ferment, les yeux embués de larmes. Cette vision le fit terriblement souffrir. Chaque jeune fille en robe ou jupe blanche le ramenait dans ses souvenirs. Son ciel s'obscurcissait et les orages maléfiques à nouveau grondaient dans sa tête.